les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'était au milieu des années 70, au Palais des Congrès à Paris, pour une émission de France Culture, mise en scène, Guy Dumur avait organisé un débat public dans le cadre du Festival du Son. Il allait être question de l'un des spectacles les plus emblématiques du Théâtre du Soleil, L'Âge d'Or, spectacle extraordinaire et insolite. Première diffusion sur France Culture, le 6 avril 1975.
Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui, à l'occasion du Festival du Son, Ariane Mnouchkine, qui, vous le savez, vient de présenter avec le Théâtre du Soleil un nouveau spectacle, L'Âge d'Or, à la Cartoucherie de Vincennes. Ce spectacle, déjà, beaucoup de gens l'ont vu, mais nous espérons et nous savons que beaucoup de gens encore le verront et que l'on en discutera pendant très longtemps. C'est un spectacle, en effet, qui, pour ceux qui connaissent Ariane Mnouchkine, bien sûr, s'inscrit dans la tradition de ce qu'elle a fait jusqu'ici, mais qui présente tout de même un certain nombre de nouveautés. Et je crois que l'intérêt principal de ce spectacle, c'est bien entendu le spectacle lui-même, c'est celui que vous pouvez voir chaque soir à la Cartoucherie, c'est-à-dire cette espèce de transposition de la Commedia dell'arte dans le monde moderne. Mais pour nous, gens de théâtre, pour nous, critiques, qui sommes habitués à aller voir des spectacles, je crois que l'intérêt principal de ce spectacle, c'est le travail absolument prodigieux qu'a fait le Théâtre du Soleil pour conduire des comédiens français à cette, j'allais dire, imitation, mais il s'agit plutôt d'une espèce de réincarnation des techniques de la Commedia dell'arte. Et jusqu'ici, je n'avais vu pour ma part au théâtre aucun comédien français, encore une fois, qui fût capable de remplir avec autant de précision et en même temps autant de virtuosité le rôle qui ont longtemps appartenu seulement à la tradition italienne. On se souvient peut-être des dernières représentations qui avaient été données autrefois en France, du Piccolo Théâtre, de Harlequin, serviteur de deux maîtres, mise en scène d'ailleurs par Giorgio Strehler, avec un prodigieux Harlequin. Eh bien, depuis ce temps-là, nous n'avions jamais vu jouer des comédiens avec cette virtuosité, avec une virtuosité qui est quelquefois d'ailleurs acrobatique, qui est tout à fait prodigieuse. Mais en même temps, bien entendu, l'originalité de ce spectacle, c'est de transposer ces techniques et ces moyens de la Commedia dell'arte dans l'époque moderne, de nous parler de problèmes de maintenant avec des personnages de maintenant, et tout cela dans un extraordinaire dispositif, puisque la Cartoucherie, la grande salle de la Cartoucherie qu'occupe le Théâtre du Soleil depuis déjà 3 ans, a été complètement transformée en une espèce de terrain vague, de montagne, que, au cours du spectacle, d'ailleurs, les spectateurs doivent gravir, car on change constamment de lieu, qui sont recouverts de tapis brosses, mais qui ressemblent à du sable, on se croirait dans des espèces de dunes, cependant que le plafond recouvert de plaques de cuivre, ou du moins d'une matière qui imite le cuivre, est en même temps illuminé par une multitude d'ampoules dans une espèce d'atmosphère de fête foraine. Et c'est un spectacle tout à fait extraordinaire et, encore une fois, insolite dans l'actuelle configuration du théâtre français. Alors, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Ariane Mnouchkine, bien entendu, et deux de ses plus fidèles amis, Alfred Simon, qui vient justement de consacrer dans la revue Esprit un dialogue, un colloque à Ariane Mnouchkine et au Théâtre du Soleil, et Bernard Dort, directeur de l'Institut d'études théâtrales, qui est aussi un fidèle compagnon d'Ariane Mnouchkine depuis ses débuts, et qui, lui, vient de consacrer un numéro spécial de la revue Travail théâtral au Théâtre du Soleil. Donc, des gens très compétents, beaucoup plus que moi, pour parler à Ariane Mnouchkine, et surtout pour inciter Ariane Mnouchkine à parler devant vous, car après tout, c'est elle surtout que nous voulons entendre. La première question que je poserai peut-être, c'est Arian Mnouchkine, je voudrais que vous disiez un petit peu aux auditeurs, aux futurs auditeurs de cette émission et aux personnes bien entendu qui sont présentes là, je voudrais un peu que vous disiez ce qu'est le Théâtre du Soleil et comment vous travaillez. Car c'est tout de même une communauté un peu particulière qui ne ressemble pas aux autres troupes de théâtre.
Le Théâtre du Soleil, c'est une compagnie qui existe depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans et qui a été fondée par 9 d'entre nous. Maintenant, nous sommes 37. On a monté plusieurs spectacles. On n'a pas commencé par l'improvisation, nous avons commencé par monter des spectacles, des pièces. Et puis, peu à peu, je crois que poussé par la façon dont vivait le groupe, dont travaillait le groupe, peu à peu, continuer dans un répertoire de textes déjà existants nous a paru de moins en moins, non pas intéressant d'ailleurs, mais de moins en moins possible. Et nous avons commencé un travail collectif, non pas que le travail sur les textes ne l'était pas déjà, mais collectif déjà au niveau de la création même des thèmes et de la forme des spectacles que nous allions proposer. Nous sommes à la Cartoucherie depuis un peu plus de 3 ans. C'est un lieu qui était un grand hangar abandonné par l'armée, dans lequel on faisait des cartouches, comme son nom l'indique, et que nous avons, justement, pas du tout essayé de transformer en théâtre, mais dont nous avons essayé de garder le plus intact possible la liberté qu'il nous offrait, puisque c'était un grand hangar vide, à mon avis très beau par sa simplicité même, et qui nous permet à chaque spectacle de restructurer l'espace de la manière dont nous pensons, nous, qu'il faut le faire. Ce qui n'est pas le cas, généralement, la plupart du temps, n'est pas le cas d'un lieu de théâtre, ou d'une salle comme celle-ci, par exemple, ou d'un théâtre à l'italienne.
Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question.
Non, je sens bien.
En ce sens que, tout de même, la façon de vivre du Théâtre du Soleil, je le disais tout à l'heure, est différente des autres compagnies. Vous vivez complètement en communauté. Et
non, ce n'est pas tout à fait vrai.
Est-ce que vous êtes toujours constitué en coopérative ouvrière?
Oui, on est toujours constitué en coopérative, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que nous ne vivons pas en communauté. Nous travaillons en communauté, mais chacun d'entre nous a sa vie. Rentre chez lui le soir.
Bon. C'est ça. Mais le soir seulement.
Nous vivons, on vit 12 heures par jour et on travaille 12 heures par jour ensemble, ce qui nous semble pour le moment suffisant.
Je crois qu'il y a une chose intéressante aussi, c'est dans votre manière de travailler, justement. Par exemple, pour ce spectacle, disons en gros, vous avez travaillé pendant près d'un an pour produire L'âge d'or. Oui. Et en même temps, même pendant que vous jouez un spectacle, le spectacle n'est pas la chose dans laquelle la compagnie se résout et s'absorbe. Enfin, vous continuez à travailler sur d'autres choses, etc. Enfin, je crois que c'est quand même assez intéressant, ça.
C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment, quand le spectacle vient d'être produit, où effectivement, pendant un certain temps, d'abord on arrive au spectacle assez fatigué, etc. Donc il y a un moment où le spectacle est effectivement la seule chose que la compagnie a pendant quelques mois ou quelques semaines produit. Bon. Puis après, on s'aperçoit très vite que si on veut que le spectacle reste vivant, je ne parle même pas de l'argent, même je parle de spectacles plus finis, enfin plus arrêtés, et qui ont précédé, on s'aperçoit que si on veut qu'il reste vivant, eh bien il faut continuer à travailler, même sur quelque chose qui n'a apparemment rien à voir. Je peux donner des exemples. Pendant 89 et 93, justement, qui étaient aussi des spectacles qui ont été faits collectivement et en démarrant des improvisations des comédiens, eh bien, un des comédiens du Soleil, Jean-Claude Pachna, a monté deux Marivaux. Comme ça, je dirais, pour le plaisir, c'est-à-dire, c'était pas du tout dans le but de les exploiter. C'était dans le but que d'abord certains jouent des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de jouer, de retourner un texte pour se renourrir un petit peu, etc. Puis bon, il y a en cours d'exploitation d'un spectacle, il y a, au niveau, je dirais, de la technique de l'acteur, il y a toujours quelque chose d'autre en train de se faire.
Il y a tout de même une chose aussi qui me paraît importante, c'est qu'à la différence des autres théâtres, ou du moins des théâtres traditionnels, il n'y a pas de différence chez vous entre, disons, les machinistes, les électriciens, les comédiens, que tout le monde participe, je crois, aux mêmes tâches.
Alors ça, il ne faut pas mystifier ça. C'est-à-dire, c'est vrai d'une certaine façon. C'est-à-dire, il y a un moment où tous les comédiens participent, si vous voulez. Tout d'un coup, il faut un coup de main de tout le monde pour finir telle tâche technique, etc. Mais ce serait faux de dire que les comédiens construisent le décor et que les techniciens jouent, parce qu'il arrive toujours un moment où les comédiens sont en train de répéter, parce qu'il faut, il faut avancer, et où les techniciens n'ont absolument pas envie, mais d'une certaine façon, de venir improviser avec nous, parce qu'eux-mêmes sont pris dans leur invention, dans leur découverte, et dans leur recherche. Alors, c'est là que se situe... Vous avez dit qu'il n'y a pas de différence. Moi, je crois qu'il y a des différences. Justement, je crois qu'un groupe ne peut être riche que, justement, si les différences de, disons, d'intérêt et de recherche de chacun sont, au contraire, très affirmées. Mais par contre, qu'il n'y a pas de hiérarchie dans ces découvertes, c'est-à-dire qu'on ne pense pas que la découverte ou la recherche d'un comédien est plus vitale, enfin, ou plus importante que la recherche ou l'invention d'un technicien qui découvrira, lui, comment faire, je ne sais pas, je donne un exemple bête, mais enfin, comment faire une petite poursuite qui, au lieu de peser 30 kilos, n'en pèsera qu'un kilo et demi, qui n'existe pas dans le commerce, et même si elle existait, de toute façon, nous ne pourrions pas nous l'offrir, et qui, pendant 6 mois, cherche les 3 lentilles qu'il faut pour arriver à fabriquer cet appareil avec vraiment apparemment de bricolage, mais ça signifie une invention et une joie, si vous voulez, pour le technicien qui le réussit, qui est l'équivalent du comédien qui réussit une improvisation. Donc l'égalité, elle n'est pas, vous voyez, elle n'est pas située. Oui.
Mais il aurait fallu préciser d'abord ce que c'est qu'une poursuite, peut-être, pour le public.
C'est un projecteur avec lequel on peut suivre un acteur. Et en général, ces poursuites sont très puissantes et très lourdes. Et donc, par exemple, pour l'âge d'or, nous en avions besoin, mais on ne pouvait pas songer un instant à employer des énormes projecteurs. Bon, ben, je prends cet exemple, c'est un parmi d'autres.
Il y en a un autre qui est célèbre, c'est dans 1789, le technicien, enfin le machiniste, je ne sais pas, ou le menuisier, qui a pensé pour le dispositif qui était entièrement en bois, de le cheviller à l'ancienne, c'est-à-dire de le faire fonctionner avec des chevilles de bois.
Oui, mais par exemple, ça, si les techniciens l'ont fait comme ça, c'est pour plusieurs raisons. Bon, c'est évidemment parce qu'ils pensaient que c'était plus beau, mais c'était plus beau parce que c'était plus pratique.
Pour les déplacements,
par exemple. Pour les déplacements, etc. C'est-à-dire qu'il y a une... et je crois qu'un technicien qui invente cette forme de travail est aussi créateur qu'un comédien qui improvise. Et ce n'est pas parce que le comédien viendra le remplacer à son travail et que lui ira improviser qu'il se sentira plus heureux. Ce qu'il doit sentir, par contre, c'est si un jour il a envie de venir improviser avec nous, il peut le faire. Bon, ça, c'est acquis, c'est évident.
Donc, il y a au contraire des différences. Est-ce qu'ils le font?
Dans des trucs parallèles, si vous voulez,
Je crois que ça intervient dans la structure même du spectacle. On peut dire que certains des éclairages, par exemple, de l'âge d'or et aussi de 93, font partie des significations du spectacle, exactement comme les mots, comme les mimiques. Enfin, l'âge d'or, par exemple, se termine par le lever du jour, c'est très très beau, par les grandes baies, enfin, brusquement, des projecteurs très blancs et clairs illuminent progressivement la salle. Enfin, et ce jour qui se lève, c'est vraiment la signification, une des significations du spectacle. Enfin, c'est-à-dire que nous changeons d'époque. Voilà. Enfin,
mais ce que je voudrais, c'est qu'Ariane Nouchkine nous dise, parce que tout à l'heure, je me suis peut-être mal exprimé en disant qu'il n'y avait pas de différence entre les différentes équipes du Théâtre du Soleil. Mais ce que je voudrais qu'elle dise et qu'elle précise, c'est que, justement, l'élaboration d'un spectacle est véritablement fait... il s'agit vraiment d'une création collective. Et c'est un mot qu'on a beaucoup employé, que les jeunes animateurs ont beaucoup employé ces dernières années. Mais il me semble qu'il est plus vrai au Théâtre du Soleil qu'ailleurs. Et je crois que c'est très important, que cette participation de tous à l'élaboration d'un spectacle est quand même très importante chez vous, non ?
Je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais donc je ne sais pas si c'est plus chez nous. Ce que je sais, c'est que c'est vrai que je crois que l'âge d'or, pour nous, a été un très grand pas, dans encore plus que 89 et que 93, dans cette collectivisation du travail. Peut-être parce que ça a été encore, enfin, bien plus difficile. Et que donc chacun s'est trouvé confronté à une telle responsabilité, à une, vraiment à un moment où chacun a bien senti que le spectacle se ferait si vraiment chacun d'entre nous mettions le maximum de nos forces, de notre imagination dedans. Autrement, tout simplement, il ne se ferait pas. Et ça, c'est peut-être dur à concevoir, c'est-à-dire que nous avons été confrontés à une telle difficulté par le thème, enfin, disons par l'ambition même du spectacle, qui était de parler du présent et de vouloir en parler, ni par la dérision, ni par la caricature, ni par le psychologique ou par le, disons, le slogan facile ou le réalisme, etc., mais par une forme dont nous pensions, nous, que justement elle était encore vivante et qu'elle avait été abandonnée trop tôt.
Que donc de la comédia dell'arte.
La comédia dell'arte et le théâtre chinois, bon, dont on pourra parler plus tard. Que vraiment, bien, si vous voulez, par exemple, vous parliez du lever du jour le matin, c'est un effet, comme on dit, qui dure, voilà, peut-être 2 minutes. L'équipe technique a signifié 3 mois ou 4 mois de travail. Or, ils savaient très bien qu'ils ne seraient employés que 2 ou 3 minutes dans le spectacle. Et s'ils avaient à ce moment-là dit, oh, quand même, faire tout ça pour 2 ou 3 minutes, c'était parce qu'ils étaient parfaitement conscients que bon, c'était la fin du spectacle et que c'était quelque chose, un signe aussi important qu'un masque, aussi vital.
Brûlons un peu les étapes parce que Pardon. Je voudrais, parce que nous allons parler bien d'une façon plus précise de l'âge d'or dans un instant, j'aurais voulu quand même, parce que ça me paraît très important et ça m'intéresse personnellement, de savoir comment, dans cet esprit communautaire, comment vous y êtes arrivé. Parce que néanmoins, nous vous suivons depuis longtemps, nous savons par exemple qu'à un certain moment, vous vous êtes retiré du monde, que vous vous êtes installé pendant un certain temps dans les salines de Ledoux. C'est-à-dire que cette vie que vous avez avec les comédiens, les techniciens, enfin tout ce qui fait le théâtre du soleil, est quand même très différente, encore une fois, de ce qui se passe ailleurs. Et donc, il y a un certain esprit, je veux dire, qui est évidemment librement consenti, mais en même temps que vous avez réussi, vous, Ariane Mnouchkine, à créer dans votre troupe. Et je voudrais savoir en quoi il se différencie d'une autre activité théâtrale, de simplement l'activité qui consisterait à faire des spectacles. Il me semble qu'il y a quelque chose de plus, tout de même, chez vous.
D'abord, je voudrais reprendre dans l'ordre ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est vrai, par exemple, que nous avons passé 2 mois de vacances tous ensemble dans les salines de Ledoux, parce que nous pensions que c'était le moment de travailler d'une façon très disponible, sans un but précis. Nous n'avions pas un spectacle en vue au moment où nous l'avons fait, etc. C'est-à-dire que Nous pensons que dans ce travail de création, il y a une sorte d'aller et venu à faire tout le temps entre une ouverture totale sur tout ce qui nous entoure, des rencontres avec des gens qui peuvent nous apporter et nous informer sur des tas de choses que nous ignorons, et puis effectivement, par moments, un refermement sur le groupe pour arriver à se modeler, à se donner les outils utiles pour pouvoir exprimer ce que nous avons à faire. Bon, ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous dites que cet esprit communautaire, c'est moi qui l'a créé, ce qui est absolument... c'est un peu contradictoire avec l'esprit communautaire. Ça se crée ensemble, cet esprit-là. Et bon, il est vrai que ce qui me semble un peu différent... Mais je vous répète, je ne vis pas dans d'autres groupes, donc je me rends mal compte. C'est que nous vivons une certaine expérience, que vous l'appeliez politique ou autrement, mais si vous voulez, je crois qu'on essaye de ne pas être trop. Qu'il n'y ait pas une trop grande différence entre ce que nous essayons de dire dans les spectacles et puis la façon dont ils sont faits. Bon, c'est-à-dire que, un peu brutalement, on essaye de ne pas faire. De ne pas faire des spectacles à gauche en les travaillant à droite. Bon, déjà, ça oblige à une certaine égalité, tout simplement, dans la différence, d'ailleurs, mais à une certaine égalité, qui n'est pas si facile que ça à trouver dans la pratique, parce que dans la théorie, tout c'est facile. Dans la pratique, c'est évident que même dans ce domaine, il est fort probable qu'on a encore énormément de progrès à faire. Bon, mais disons que c'est peut-être ça qui est différent, c'est de chercher à progresser, pas seulement au niveau du spectacle terminé que nous proposons, mais aussi à progresser dans la façon de le faire.
Vous venez de définir extrêmement bien, d'ailleurs, une pratique de la vie, mais il y a aussi un élément, si vous voulez, de culture, de tout l'élément qui consiste à apprendre un certain nombre de choses. Et je crois me rappeler, par exemple, que pour 1789 et 1793, vos précédents spectacles, vous vous étiez entouré de conseils d'historiens, que vous avez beaucoup étudié, évidemment, les problèmes historiques qui pouvaient se poser à l'époque de la Révolution. Et cet élément de culture est une chose que vous pratiquez constamment, que... Est-ce que je veux dire que vous avez des espèces de séminaires en dehors des répétitions? Est-ce qu'il y a une réflexion intellectuelle qui n'est pas seulement dans la pratique du théâtre?
Je ne peux pas dire que ça se passe continuellement, parce que, je vous répète, il y a un tel travail pratique à faire que, d'ailleurs, souvent, c'est ce qui s'est produit avec l'âge d'or, par exemple. À un moment, nous éprouvions de grosses difficultés, et on a eu envie... Bon, ben, justement, Simon était moi, c'est-à-dire que... Nous avons eu envie, tout à coup, on avait rencontré énormément de groupes de travailleurs, de groupes d'émigrés, etc., avec lesquels, c'est pas seulement que nous discutions, mais on improvisait devant eux, on leur demandait même, on leur proposait ce que nous avions trouvé, par exemple, sur les émigrés, pour qu'ils le critiquent, ce qu'ils faisaient, etc. Bon. Puis, à un moment, nous avons eu envie de nous arrêter 8 jours et d'essayer de parler du théâtre. Parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, c'est fou ce que, quand on est professionnel du théâtre, finalement, on ne parle théâtre, on en parle tout le temps, apparemment, et finalement jamais, parce que chacun suit son obsession, et qu'en fait, dialogue, il n'y a pas vraiment souvent, sauf comme aujourd'hui, par exemple, en public, où je crois, moi, que si deux metteurs en scène se rencontrent, je ne crois pas qu'ils disent toujours la vérité. C'est-à-dire que, comme ils sont en public... Il passe une partie du soi-disant dialogue à se cacher. Et donc, pendant ces 8 jours, on a demandé à des gens de théâtre, soit qui pratiquaient le théâtre, comme des metteurs en scène, ou qui réfléchissaient sur le théâtre, de venir parler avec nous, simplement. Et ça a été très, très important. Apparemment, ils ne sortaient de ces entre-rien, rien de concret. Mais en même temps... Comme il n'y avait pas ni de journalistes, ni de public même qui aurait pu nous juger, eh bien chacun disait véritablement les difficultés qu'il rencontrait dans sa recherche théâtrale, quand il s'agissait d'un metteur en scène, ou même dans sa recherche d'une autre profession. Avec un professeur, par exemple, on a parlé longuement, et tout d'un coup, bon, il osait dire vraiment toutes les difficultés qu'il avait. Et bien, avec Simon, on a eu un autre genre de conversation.
Oui, je pourrais peut-être préciser. Enfin, parce que j'admire beaucoup la pudeur d'Ariane à parler de son expérience. Il se trouve que cette expérience m'a engagé très profondément, que c'est la première fois que mon pseudo-métier de critique me fait entrer si loin dans la recherche d'autres gens, et en particulier d'une équipe de théâtre. Et il se trouve qu'au fond, mes idées, aussi bien, disons, sur la politique que sur la recherche d'un théâtre politique, sont très différentes de celles d'Ariane, et même presque à l'opposé. Hein. Et pourtant, je me suis senti très engagé. Elle a parlé d'un travail que l'acteur faisait sur lui-même à partir de la Commedia dell'arte. C'est-à-dire, je crois qu'en effet, il y a d'abord cette chose, c'est un travail sur les comédiens italiens, sur la Commedia dell'arte comme modèle de travail théâtral pur. Enfin, je crois que c'est ça, la leçon de la Commedia dell'arte. Et d'autre part, la recherche d'un travail politique, d'un langage politique, d'un discours politique à tenir avec les moyens du théâtre. Je pense que d'un côté, l'équipe ne s'est absolument pas donné comme objectif, comme Guy Dumur l'a souligné, d'imiter, de répéter la Commedia dell'arte, ce qui serait une entreprise absurde. Ce n'est même pas de raconter, si vous voulez, la Commedia dell'arte. Nous avons vu, il y a une vingtaine d'années, un très joli spectacle, enfin, moi personnellement je l'ai beaucoup aimé, monté par la compagnie Fabril qui s'appelait La Famille Arlequin. En un sens, c'est une anti-famille Arlequin que nous voyons avec L'Âge d'or. Et d'autre part, il y a cette recherche d'un discours politique théâtral. Moi, si l'expérience m'a passionné, c'est que quand même, et ça, Ariane n'y a pas touché, c'est que le joint entre les deux, c'est probablement ce que je sens de plus fondamental, en tout cas de plus original. Je pense que ça n'a jamais existé dans le théâtre français ou peut-être même dans le théâtre occidental contemporain. Sauf, et ça il y aurait beaucoup de choses à dire sur certains aspects, un certain moment de la vie de Jacques Copeau, n'est-ce pas ? Il y a la recherche de quelque chose qui concerne le sens même de la vie à travers le travail de l'acteur. Enfin, au-delà d'un travail théâtral et d'un discours politique, il y a une expérience de vie, il y a une quête de vie que seul une sorte de communauté ouverte comme l'est le Théâtre du Soleil, c'est-à-dire une anti-communauté hippie, n'est-ce pas, je veux dire vraiment le lieu de la rencontre entre des gens du Soleil entre eux et des gens du Soleil avec d'autres gens, c'est le théâtre et strictement le théâtre, mais il y a des choses sur le théâtre qui n'ont encore jamais été dites et dont probablement je pense que le Théâtre du Soleil est la première équipe à essayer de les dire, même si j'ai l'impression par moments qu'elles résistent, n'est-ce pas, qu'il y a certains blocages en eux qui les empêchent, dirons-nous, d'aller jusqu'au bout. Et ça m'a beaucoup passionné, ça.
Pour ne pas parler dans l'abstrait, puisque nous sommes entrés dans le vif du sujet, puisque nous devons parler de l'âge d'or du dernier spectacle du Théâtre du Soleil, j'aimerais tout de même que l'on dise à ceux qui ne l'ont pas vu encore, que l'on dise un peu ce que l'on voit, car c'est tout de même important de décrire, si brièvement que ce soit, le spectacle tel qu'il se présente. Bernard Dort, oui. Est-ce que vous êtes capable de résumer, de dire oui. un petit peu, on c'est entre bien. À la cartoucherie, oui. et qu'est-ce qui se passe?
C'est bien difficile, parce que... Il y a à la fois l'aspect visuel qui est très frappant, enfin, puisqu'en effet, lorsqu'on entre à la cartoucherie, on entre d'abord dans une première salle qui est une espèce de... où il y a une grande estrade, enfin. Alors on pense au théâtre de foire, enfin. Et puis ensuite, il y a d'ailleurs une scène qui est jouée là, enfin, qui fait le lien d'ailleurs entre le passé et le présent, enfin, puisque c'est une scène qui se joue à Naples en 1720 et où est introduit un personnage qui va être le personnage central. C'est le personnage de l'arlequin algérien, enfin, ça, Abdallah, oui. enfin, qui lui survole en quelque sorte les siècles de l'immigrant et on suit Abdallah et on entre dans un lieu qui est proprement féerique, poétique au sens le plus fort du terme et en même temps totalement matériel. C'est ce lieu dont on a déjà parlé, cette espèce de colline, de dune, enfin recouverte de tapis brosse. Oui. où les spectateurs s'assoient, enfin, à même le sol, enfin, même ces tapis, et où les acteurs vont jouer les choses un peu, alors, comme un théâtre qui n'a même plus de tréteau, qui n'a
oui,
plus rien.
Une sorte
enfin,
de feu de camp. De,
oui, c'est ça. Oui, enfin, c'est un mot dangereux.
Oui, mais je sais. Non, oui, c'est
alors,
bon.
le spectacle est à la fois très simple et très complexe. La trame très simple du spectacle, la première trame, enfin, il y a deux trames, en quelque sorte. Il y a une trame de l'immigrant, enfin, c'est l'histoire d'Abdallah, immigrant algérien qui débarque à Marseille, qui va connaître les premières difficultés du contact avec la France, enfin, et qui va finir par mourir dans un accident du travail, enfin, en tombant du haut d'une tour, à la suite d'une malfaçon, semble-t-il, ou du vent. Enfin. Et la seconde trame, enfin, c'est que parallèlement à cette histoire d'Abdallah, court une histoire, alors beaucoup plus discontinue, mais quand même, dont les personnages principaux sont deux pantalons devenus des industriels, des patrons du monde moderne, enfin, deux grands bourgeois, enfin, mais une histoire de la société française, enfin, au niveau de la grande bourgeoisie, même une scène qui se passe dans la petite bourgeoisie de la société française. Alors, c'est une sorte de tableau, en ce sens, de la société française aujourd'hui. Alors, ce qu'il y a de fascinant dans le spectacle, moi, ce qui m'a en effet fasciné, et je suis tout à fait d'accord avec Alfred Simon, c'est le rapport entre, je dirais, la tradition théâtrale et l'expression de la société aujourd'hui, enfin, l'expression par des acteurs d'aujourd'hui. Il y a cette chose extraordinaire, je crois qu'on n'avait jamais poussé aussi loin l'expérience, d'ailleurs, même pas au Piccolo Teatro, enfin, avec Arlequin, c'est la façon dont des masques, enfin, le masque d'Arlequin, le masque de pantalon, ont permis à des acteurs d'extérioriser, en quelque sorte, des hommes d'aujourd'hui, de les extérioriser pleinement et de se libérer, en un sens, d'une espèce de narcissisme théâtral qu'ont beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Enfin, il y a une espèce de joie, d'extériorité, d'expression théâtrale au sens plein, très très forte.
Il y a une chose très étonnante à ce point de vue, c'est le rôle de pantalon, justement, que l'on voit au début dans le pantalon de la Commedia dell'arte, avec ce masque très caractéristique de corbeau, de masque noir de corbeau, et qui ensuite est un monsieur en complet veston, avec un chapeau noir, et qui est, bien entendu, dont les attitudes, les déformations corporelles sont d'un personnage de la Commedia dell'arte, et qui en même temps ressemble trait pour trait à un grand capitaliste d'aujourd'hui. J'ai oui, tout oui. le temps pensé à quelqu'un que je ne veux pas nommer, mais qui lui ressemble d'une façon très frappante. Et il y a là, on sent une espèce de, justement, d'universalité du personnage, à la fois d'absence de psychologie, de marque sociologique évidente, mais quelque chose surtout de très vivant, d'extraordinairement vivant et convaincant. Et de la même façon pour le personnage d'Abdallah, ce jeune arabe qui a gardé le masque d'Arlequin, qui est gai, vif, jeune, innocent, et qui est un personnage dont on sent qu'il a véritablement traversé les siècles.
Qui n'est d'ailleurs pas joué par un arabe.
Enfin, non, non,
qui n'est pas du tout. Les acteurs nous le disent, même il y a un conteur, enfin, qui est une femme, qui est une conteuse, qui nous dit bien les noirs sont joués par des blancs, et certains noirs, d'ailleurs, jouent des blancs. Il y a une actrice noire qui joue, d'ailleurs, une grande bourgeoise capitaliste française. Enfin. Alors, moi, ça, je crois, tout ça est tout à fait extraordinaire. Évidemment, je me pose quand même des questions. Je trouve que ce lien entre le théâtre et le politique, enfin, il est in nucleo, je le trouve absolument convaincant, enfin, parce qu'il y a ce passage continuel du théâtre à la description d'une situation. En même temps, dans l'ensemble du spectacle, alors, il me pose quelques questions, parce que l'ensemble du spectacle me paraît parfois, enfin, il me semble qu'il y a des éléments qui sont moins, qui ne sont pas toujours cohérents les uns par rapport aux autres. Enfin, si tu veux, Ariane, oui. Par exemple, pour une chose précise, certaines scènes qui sont vraiment, qui reprennent presque Harlequin et la police, par exemple, qui reprennent presque des histoires de la Commedia dell'arte de manière précise, me paraissent appliquer très très bien à aujourd'hui. La scène des passeports, par exemple, à Marseille, me paraît s'appliquer très bien. Autant, par exemple, une scène comme la critique de la télévision, enfin, qui est une scène très jolie, je trouve, alors là, elle relève un peu plus, quand même, d'une sorte de cabaret anecdotique politique d'aujourd'hui, mais elle me paraît aller moins loin.
Et c'est quand même une scène très drôle, il faut dire.
Drôle,
on voit pendant un long moment une femme comme ça, l'allure un peu avachie, comme ça, qui est en train de faire sa cuisine. Et il ne faut pas oublier, on ne l'a pas dit encore dans ce spectacle, et ça c'est un tour de force, c'est qu'il n'y a absolument aucun accessoire. Et que les comédiens du Théâtre du Soleil sont arrivés à une telle virtuosité dans le mime, qu'ils miment absolument tous les gestes et que l'on voit, véritablement, on voit la cuisine, on voit la chaudière à gaz, l'appareil, enfin, comment ça s'appelle ?
Le
radiateur à gaz, enfin, on voit tout ce qui fonctionne, les robinets, etc. Mais il n'y a jamais aucun accessoire. Et alors, on voit cette femme qui regarde pendant un long moment la télévision, puis le mari qui arrive fatigué du travail, qui ne veut pas regarder la télévision, mais qui la regarde quand même. Et là, c'est tout de même, au point de vue imitatif, évidemment, c'est quand même une scène très extraordinaire avec simplement des petites exclamations de temps en temps, comme tout d'un coup, on regarde, on ne sait pas très bien ce qu'il voit à la télévision, mais on comprend lorsque la femme s'exclame « Oh, s'il pouvait venir dîner chez nous », on comprend. Et alors, il y a tout de même
un
élément là, anecdotique et imitatif, mais qui est tout de même très réussi et très drôle. Enfin. Et d'autant plus que cette scène de petit bourgeois est suivie d'une scène extrêmement belle, qui est une scène qui se place sur une plage et où un couple comme ça se déshabille et se livre comme ça un certain nombre d'acrobaties, font la roue dans une espèce de liberté retrouvée et qui est tout à fait belle et qui succède très très bien à la scène.
Mais ça, c'est un des aspects, moi, qui m'a beaucoup touché dans le spectacle, c'est qu'il y a une poésie du spectacle extraordinaire et qui est d'ailleurs supposée par l'argument du spectacle aussi, enfin, puisqu'on nous dit que ce spectacle est raconté, si j'ose dire, au futur passé, enfin. C'est dans une autre société, une société idéalement, poétiquement juste, enfin, qu'on raconte ce qui se passait autrefois en 1975. Alors, ce qui permet d'avoir une sorte de distance poétique par rapport à aujourd'hui. C'est à la fois très fort, ça ne semble pas que cette distance soit toujours respectée.
Je peux peut-être donner quelques précisions sur le travail, justement rapport aux réserves que tu fais sur la scène de la drogue.
Télévision drogue,
oui c'est la télévision de la drogue. C'est-à-dire que une des grandes difficultés dans le travail, c'était justement de trouver. On a vite trouvé les petits. C'est-à-dire les émigrés, les pauvres, presque le sous-prolétariat. On a vite trouvé les puissants, parce que dans la Commedia dell'arte, ils sont, qui quand même existait à un moment où la société était moins complexe, moins subdivisée, eh bien, les personnages essentiels nous apportaient beaucoup comme aide. Et on a eu beaucoup plus de mal pour les moyens. Or, la scène dont vous parlez, elle se situe dans la petite bourgeoisie.
Ce sont d'ailleurs des personnages sans masque, justement.
Et il y en a plusieurs sans masque.
Sans masque, oui.
Et donc, il y a encore, à mon avis, je vous rappelle quand même que le spectacle s'appelle Première ébauche, et c'est presque un peu par rapport à ça. Mmh. C'est-à-dire que, moi, je défendrai la scène dont tu parles, parce que je pense que tu as raison.
Je ne l'attaque pas sauvagement.
Non, mais moi, si tu veux, je la défends dans la mesure où je crois qu'elle est tu as raison d'une certaine façon, mais en même temps, quand cette scène est vraiment jouée comme elle doit être jouée, ce que tu dis disparaît parce que ça devient une scène à la fois drôle, mais aussi une scène de tragédie. C'est-à-dire, ça devient une scène vraiment très, très, presque insoutenable à un moment donné. Mais il n'empêche que nous sommes tout à fait conscients que nous n'avons pas du tout encore réussi à parler de tout le monde, de toute la société d'aujourd'hui, que nous n'avons pas trouvé encore chaque type et chaque classe sociale d'une façon exhaustive. Et
est-ce que c'est pas une tentation dangereuse oui. de vouloir parler de tout? Est-ce que c'est possible?
Non, mais justement, mais alors c'est une tentation dans laquelle, disons, on nous entraînerait facilement parce que avec ce spectacle, déjà beaucoup nous disent ah, mais vous avez parlé des immigrés, mais vous n'avez pas parlé de ça, vous n'avez pas parlé de ça, vous n'avez pas parlé de ça. Or, il est évident que disons, une rencontre de 3h30 avec 400 personnes, on ne peut que raconter que certains récits et qui seront toujours. Voilà, qui laisseront entendre que il y en a encore beaucoup d'autres à raconter et qui peuvent changer d'ailleurs un soir sur l'autre. Ça, c'est ce à quoi nous voulons arriver.
D'autant plus que chacun de ces récits suppose un extraordinaire travail du comédien sur lui-même. C'est-à-dire que pour 3 minutes de jeu, il y a des mois de travail. Mmh. Il ne s'agit pas d'aligner les unes après les autres des silhouettes établissant une rencontre problématique entre tel ou tel personnage de la Commedia dell'arte et puis tel ou tel type social actuel. C'est qu'il y a ce travail en profondeur du comédien sur lui-même, sur son propre corps. On parlait des masques. Eh bien oui, je crois que c'est Gordon Craig qui disait qu'à partir du moment où le théâtre occidental avait oublié le masque, il s'était condamné lui-même à la décadence. C'est qu'effectivement, le masque est l'outil par excellence de l'anti-narcissisme, de l'anti-cabotinage. Mmh. Il oblige l'acteur à s'extérioriser, à ne rien garder pour lui-même, sans pour autant se contempler continuellement dans un miroir.
De ce point de vue, là, il y a un travail sur le corps que le masque
prodigieux.
Permet,
semble-t-il,
qui est très prodigieux, qu'il exige, et qui est étonnant parce qu'en même temps, il est tout à fait différent de certains exercices physiques, corporels, un peu, qui sentaient un peu trop leur gymnastique, qui étaient de mode, ou qui sont encore de mode dans le théâtre actuel. Et là, il y a brusquement, derrière le masque, il y a une liberté corporelle qui va de pair avec ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, c'est que ce qu'il y a de très beau dans ce spectacle, c'est que même les affreux, même les pantalons, etc., ne sont pas caricaturés, ne sont pas vraiment une simple silhouette. Enfin, il y a de temps à autre, on se dit qu'il y a quelque chose derrière eux qui sont aussi humains. Enfin, de ce point de vue, de la scène de la plage est assez étonnante parce que lorsque Pantalon et son aide, enfin le sous-pantalon, surgissent plein de fureur devant l'obscénité, en même temps on sent que c'est parce que c'est brusquement le personnage devient individuel. On sent parce que il envie aussi ça, c'est pas seulement une simple histoire entre Pantalon et Colombine.
Je me souviens de telle ou telle répétition à laquelle j'ai assisté où c'était un Pantalon qui jouait et Ariane dit simplement « Je ne sens pas ton masque ». Et immédiatement, le comédien s'appuyait sur ses cuisses, faisait travailler les muscles de ses cuisses. Autrement dit, pour faire apparaître le moine, il travaillait le masque, il travaillait sur la cuisse.
On a parlé tout à l'heure de distance. Et il faut rappeler justement ce qu'il y a de beau dans ce spectacle, c'est qu'on nous rappelle tout le temps qu'on est au théâtre. C'est-à-dire que les personnages, dès qu'ils ont terminé une scène, s'assoient parmi les spectateurs, relèvent leur masque et que ils entrent dans la scène pas du tout comme on entre ou du moins comme on entrerait dans un théâtre visible. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de coulisses, on voit le moment tout le temps où le personnage va devenir personnage. Et le pouvoir d'illusion, d'ailleurs, est encore plus fort. Mais alors, ce que je vous ai demandé, justement, Ariane Mnouchkine, c'est, moi je le sens évidemment, mais est-ce que cette distance était vraiment nécessaire et qu'est-ce qu'elle signifie exactement par rapport au personnage, par rapport à l'histoire, aux situations?
Je crois qu'elle est primordiale et elle est contenue dans ce qu'exige le masque. C'est-à-dire, je crois qu'il y a moi, je pense que le public, dans ce spectacle, travaille beaucoup. Parce qu'en fait, l'acteur fait, il fait très peu de choses. Il donne quelques signes pour permettre aux gens qui le regardent, eux, de continuer et d'imaginer ce qui, en fait, n'est pas. Bien. Mais pour ça, justement, on ne travaille pas, enfin, il n'y a pas du tout d'illusion. Il y a une sorte de dialogue en disant, bien, moi, je fais tel signe. Et à ce moment-là, cela doit te permettre de voir que je suis sur une tour de 70 mètres de haut. Mais il n'y a ni tour et le comédien est par terre. Donc, si vous l'avez vu sur la tour, à ce moment-là, c'est vous qui avez joué.
Oui. Bon. Mais c'est aussi le comédien, quand même. Vous évoquez, par exemple, c'est une des scènes les plus poignantes et les plus belles en même temps, c'est la mort d'Abdallah, qui, à la fin, qu'on voit monter sur la tour. Or, quand il monte sur la tour dans une espèce de mauvais équilibre, avec le vent qui souffle, etc., on voit cela. Et ce sont des signes, mon Dieu, assez, comment dire, connus, où on peut reconnaître. Mais quand il tombe, quand vous le faites tomber d'une très, très grande hauteur, et que simplement, sur place, le comédien tourne dans une espèce de vol qui devient comme un vol d'oiseau, il y a là une transposition qui n'est plus, ce n'est plus seulement l'imagination du spectateur c'est ce que fait le comédien tout de même,
c'est ce que fait le comédien. Je dirais que le comédien, il fait ce qu'il y a de plus difficile, c'est qu'il ouvre l'imagination du spectateur, et que c'est une des choses, c'est très rare de pouvoir le faire, donc je ne suis pas du tout en train, je vous dis, si on a travaillé depuis un an et demi, c'est bien parce que nous étions conscients de ce qui allait être demandé au comédien, et que pour ouvrir ce monde infini, finalement, qui est contenu dans l'imagination de chaque spectateur, il faut des clés parfaitement adaptées et très précises.
Moi, j'ai pas vu les répétitions, mais j'ai l'impression même qu'un des gros travaux, ça a dû être, en quelque sorte, d'épurer les signes des comédiens, réduire ce qu'ils disaient.
Bien sûr, c'est ça ce que je veux dire. Je crois que, effectivement, que le comédien, enfin, tous ceux qui, à un moment donné, vous font voir des choses qui ne sont pas, c'est pas du tout qu'ils les font, ils font exactement ce qu'il fallait quand ils y arrivent, ce qu'il fallait pour que tout à coup peut-être que c'est là qu'on peut enfin prononcer le mot de participation finalement. Peut-être qu'il est là, et je crois que le fait qu'il lève le masque et que donc vous sachiez qu'à ce moment-là il est acteur et pas personnage, et que d'une certaine façon vous n'avez rien à attendre de lui de ce point de vue-là, jusqu'au moment où tout d'un coup, ayant baissé le masque, il rentre dans le récit et devient magicien, mais magicien justement sans aucune tromperie. C'est-à-dire, il à aucun moment il ne trompe, à aucun moment il n'y a de fumée, il est tout le temps en train de donner, je vous dis, une possibilité à l'autre de lui répondre par des visions. Je ne sais pas si c'est très clair.
C'est très concret. Je me souviens d'un travail de 3 heures, je crois, auquel j'ai assisté. C'était un mois avant le début du spectacle. C'était l'arrivée d'Abdallah à Marseille, et il y avait une mélopée arabe pendant la descente d'un personnage. Il y avait Abdallah qui traversait les rues de Marseille en recevant des insultes racistes sur son passage. Il y avait la montée par toutes sortes de petites rues qui les amenaient à se baisser, à changer de stature pour donner l'illusion du passage de rue. Tout cela a disparu de la représentation. Il ne reste plus que l'arrivée extrêmement simple d'Abdallah, qui est reçu par un de ses congénères, un négrier qui va l'exploiter. Et c'est tout. On a supprimé toute cette accumulation de signes dont je ne voyais pas d'ailleurs ce qu'ils allaient donner à la représentation. Simplement, l'autre jour, j'ai constaté que de ces 3 heures de travail, on avait abouti à quelque chose de très nu, de très simple, qui met d'ailleurs mieux en valeur les 5-6 moments très très forts du spectacle, comme la chute d'Abdallah ou la lutte contre le vent sur le chantier du travail. Il faut dire que ce sont des choses assez extraordinaires. Vous comprenez, des comédiens qui sont à quelques mètres de vous, sans aucune barrière qui vous sépare d'eux, c'est-à-dire ni rampe, ni hauteur de scène, ni rideau, ni cadre de scène, dans un éclairage qui est le même pour eux et pour nous, à quelques mètres, et qui sont sur un chantier où le vent souffle en fureur, et uniquement par un bruitage, par l'attitude, et même le petit Abdallah qui prend simplement sa veste et qui l'agite derrière lui comme cela, la tempête est sur vous à tel point que les premiers rangs ont tendance à se garer, à se protéger du vent.
Eh bien, voilà qui donne envie, en tout cas, d'aller voir l'âge d'or à la cartoucherie de Vincennes. Et je serais heureux s'il y avait dans le public, puisque nous sommes en public, des personnes qui ont déjà vu ce spectacle ou qui ont envie de poser des questions à Ariane Nouchkine, profitons de sa présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question ou parler du spectacle s'il l'a déjà vu? Monsieur?
Je voulais simplement dire que je me réjouissais de ma tristesse, c'est-à-dire que je voulais aller voir le spectacle et j'apprends que tout est déjà complet, louant 14 jours d'avance, tout est plein.
Ah. Alors, il faut essayer de venir une heure à l'avance, il y a toujours une cinquantaine de places. Mais il faut être là très tôt.
Oui. On peut faire l'essai. Ah oui, mais là, alors à l'avoir dit, c'est...
Si on le dit.
Attendez, je voudrais poser une question. Je voudrais tout de même profiter de monsieur. Est-ce que vous avez déjà vu, monsieur, les spectacles du Théâtre du Soleil?
Oui, j'ai vu 89. Ah, c'est bon. Le premier que j'ai vu. J'étais parti Mossad en disant encore une histoire de la Révolution. Et puis, je n'ai pas vécu l'histoire de la Révolution, j'ai vécu la Révolution.
Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez autant de courage que monsieur d'aller ou une heure à l'avance ou de louer 15 jours à l'avance, de téléphoner du moins, parce qu'il n'y a pas de place. Mais Ariane Nouchkine tient évidemment à un certain nombre de spectateurs qui ne peut pas être dépassé, encore une fois, à cause de ce dispositif. Alors, prenez vos précautions, mais je crois qu'il faut absolument voir ce spectacle qui est non seulement très beau, mais qui est, je crois, quelque chose d'essentiel et qui, encore une fois, ne ressemble à rien de ce que l'on peut voir habituellement au théâtre, non seulement par la qualité de l'interprétation et les sujets, le sujet qui est traité, mais à cause d'une espèce d'atmosphère, quelque chose que nous avons essayé d'évoquer aujourd'hui et qui n'appartient qu'au Théâtre du Soleil.
C'était Mise en scène, l'âge d'or, débat public organisé dans le cadre du Festival du son au Palais des Congrès à Paris. Une émission de Guy Dumur qui réunissait Ariane Mnouchkine, Alfred Simon et Bernard Dort. Première diffusion sur France Culture le 6 avril 1975. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.